La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio B. Vous êtes bien sur La Voix de l'Autre. Ce mois-ci, on continue d'emprunter la voix du docteur Myriam Kabissi, pédiatre à l'hôpital Fléria et dans un CESAD de l'association l'APF France Handicap. Bonjour docteur Myriam Kabissi.
Bonjour.
Dans la chronique précédente, vous avez évoqué ce qui, dans votre pratique et votre expérience de pédiatre spécialisé en néonatologie, vous avez amené vers les enfants porteurs du trouble du spectre de l'autisme. Vous nous avez expliqué cette autre façon d'être au monde qu'est le trouble du spectre de l'autisme et que pour vous, le curseur en tant que médecin était celui de la souffrance de l'enfant et de ses proches. Désormais, aujourd'hui, je voulais vous poser la question de cette consultation pour le jeune enfant de moins de 4 ans à laquelle vous participez avec le docteur Miralles et Floriane Roussel à l'hôpital Fléria. Consultation que vous allez nous expliquer pour ces enfants.
Donc cette consultation, elle est destinée au dépistage précoce des jeunes enfants. Donc des enfants de moins de 4 ans. Ils arrivent à cette consultation parce qu'au départ, il faut qu'il y ait un écrit par un professionnel qui adresse cette famille. La famille toute seule ne peut pas venir s'il n'y a pas de courrier de médecin ou de professionnel, psychologue, enseignant, décrivant les éléments d'inquiétude, de suspicion et éventuellement différents bilans qui auraient pu déjà être réalisés. Cette première consultation, qui est pluridisciplinaire, on organise un rendez-vous. Donc, entre le moment où le courrier arrive et que la consultation peut s'organiser, il va se passer des mois. Et c'est l'âge d'adressage où on reçoit le courrier qui a force de valeur. Si l'enfant a plus de 4 ans, même si le tableau est évocateur, il ne pourra pas être accueilli à cette consultation-là. Donc, il faut faire très attention d'adresser précocement toute suspicion d'enfant. Cette première consultation, on rencontre la famille, l'enfant. Il y aura un examen clinique et surtout un interrogatoire assez poussé pour déterminer est-ce que l'histoire que raconte la famille, les éléments sont compatibles avec un trouble du neurodéveloppement et particulièrement un trouble du spectre de l'autisme. Si cette première consultation est probante, le plus souvent, on rencontre une deuxième consultation, cette famille, pour avoir une consultation pluridisciplinaire et d'organisation. Et si ces éléments sont en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme, on va pouvoir l'évoquer à la famille en disant si c'est un des éléments de suspicion de cette consultation. Et pour organiser d'autres bilans complémentaires, le bilan étiologique complémentaire sera différentes choses. Ça peut être un bilan orthophonique qui va permettre d'appréhender les éléments de communication de l'enfant, un bilan psychomoteur pour pouvoir savoir quels sont les éléments d'organisation dans le corps de l'enfant. Est-ce qu'il a des particularités? Est-ce qu'il a des particularités sensorielles? Est-ce qu'il a des atypies qu'un bilan psychomoteur va identifier? Le but de ces deux bilans, ce n'est pas de poser un diagnostic. Le diagnostic, c'est le médecin qui va le poser. C'est simplement d'avoir un état des lieux, une sorte d'image clinique à un instant T, qui n'a valeur que pour cet instant, de l'enfant. Et qui s'intègre sur un espace-temps. C'est tout ce que raconte la famille, l'enseignant, l'école, la crèche, depuis qu'il est petit. Et c'est l'ensemble de ces choses qui peuvent permettre de commencer à avoir un schéma qui se dessine. Et en fonction de tout ça, on peut décider de faire un bilan complémentaire plus orienté sur l'autisme. Un de ces bilans qu'on peut organiser s'appelle l'ADOS. L'ADOS, ça consiste en quoi? Ce sont une épreuve clinique où l'enfant est filmé dans une mise en situation avec des jeux. Donc, il interagit avec un adulte, avec des jeux très codifiés. Et au décours de ces activités, il est filmé pendant ce temps-là, et c'est le film qui va être analysé pour essayer de décrypter comment l'enfant réagit. le film permet justement d'avoir un rapport distancié assez fiable. Et à partir de ce film, la réaction, l'adaptation sociale de l'enfant, les intérêts de l'enfant vont être cotés. Et en fonction de cette cotation, on va pouvoir plusieurs éléments. Soit on va considérer qu'avec cette évaluation, à cet instant, c'est toujours dans un espace-temps, vous avez une situation à très faible risque d'avoir un trouble du spectre de l'autisme, un risque un peu plus certain, avec un risque léger, modéré ou plus important. Quand vous montez dans le risque, ça ne veut pas dire que vous avez une forme grave, ça veut dire qu'à un instant T, vous avez des besoins qui sont en lien avec un trouble du spectre de l'autisme, soit léger, soit plus conséquent, soit vraiment des besoins très importants. Et ça correspond à un moment donné. Quand vous avez une ADOS qui répond positive, il est fortement probable que vous présentez un trouble du spectre de l'autisme. Mais quand cette évaluation, associée à d'autres évaluations, répond que vous avez un faible risque, ça n'élimine pas complètement un trouble du spectre de l'autisme. Ça veut dire que cet instant T, on n'a pas pu le prouver. Et on reste toujours vigilant. Pourquoi ? Parce que certains enfants ont des troubles sévères. Et le diagnostic différentiel, lorsqu'ils sont très sidérés par leurs troubles, la DOS ne va pas répondre parce qu'elle va considérer que l'enfant est peut-être plus dans le champ de la déficience avec des troubles assez globaux. Et c'est l'évolution qui peut permettre de faire retoquer ce diagnostic. Parce qu'en plus, un enfant autiste peut être déficient. Donc c'est son évolution, s'il y a des choses plutôt discordantes, qui permettra de retoquer. Donc ce test, il est utile s'il prouve que vous êtes autiste. Mais s'il est négatif, ça n'élimine pas complètement. Donc finalement, on pourrait tous se considérer comme autiste. Tant qu'on n'a pas prouvé, c'est difficile de prouver la normalité. On est finalement en bonne santé, sans trouble, tant que ça roule. Et puis finalement, si l'évolution vous dit à un instant T que vous ne l'êtes pas, mais que les années passent et que finalement, ce que vous êtes fait que ça fait quand même souffrance, il faut savoir pouvoir dire, est-ce qu'on ne s'est pas, à un moment donné, trompé et refaire des évaluations. D'autres évaluations plus fines, l'ADI peut être réalisée dans un second temps si la DOS commence à donner des éléments mais un peu douteuses. Et puis on peut également faire d'autres évaluations pour voir un peu sur le plan fonctionnel où est l'enfant, plus qu'une psychométrie, ça donne des éléments sur les aptitudes globales de l'enfant, en particulier les aptitudes sociales, mais également les aptitudes dans les gestes du quotidien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Vineland, qui peut être fait dans plein de situations et qui permet d'avoir aussi un état des lieux assez fonctionnel de ce que est l'enfant à un instant T. Voilà.
D'accord. Donc, dans l'hypothèse où vous trouveriez lors de cette consultation une probabilité de trouble du spectre de l'autisme, qu'est-ce que vous êtes amené à l'issue de ce diagnostic à proposer comme accompagnement à l'enfant et à sa famille ? Parce que, voilà, il se retrouve avec ce diagnostic. Et qu'est-ce qui peut leur être proposé ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ?
Alors, c'est rarement justement un diagnostic, c'est plutôt une suspicion. Au décours de cette première évaluation, voire une deuxième évaluation clinique, on ne peut jamais ou très rarement poser un diagnostic de certitude. Donc, on va toujours partir de ce qu'est l'enfant, de ce que ressent l'enfant, quelles sont ses difficultés. Et dès la première consultation, finalement, c'est le curseur. Si l'enfant présente un trouble du langage ou une suspicion de trouble du langage parce qu'il n'a pas accès au langage ou avec des difficultés assez conséquentes, on va orienter vers un bilan orthophonique pour proposer une rééducation, un accompagnement orthophonique. Pareil pour s'il a des problèmes de concentration, de problèmes de coordination. Même sans diagnostic, la priorité, c'est le soin. Donc, cette première consultation, déjà, on fait un état des lieux des difficultés de l'enfant et dès le départ, on oriente vers des soignants, des médicaux, des paramédicaux, pour le soin. Et ces premières évaluations qui aboutiront à de la rééducation si nécessaire, vont être des éléments à la fois du diagnostic qui arrivera beaucoup plus tard. On n'attend pas d'avoir un diagnostic pour s'occuper de l'enfant. La priorité, l'urgence, c'est de soulager l'enfant, de l'aider à rentrer dans le champ de son développement personnel, avec ses capacités. À quel moment on va poser un diagnostic ? En fait, très rapidement, on va dire des éléments de suspicion de diagnostic. On va considérer que la suspicion d'un trouble du neurodéveloppement, c'est une urgence thérapeutique. Pourquoi ? Parce que l'enfant peut s'améliorer. Il est accessible à de la rééducation. Ça change son devenir. Donc, sur cet élément de suspicion, il n'y a que ça qui a besoin. On peut déjà orienter l'enfant chez des professionnels, l'ORL, pour éliminer une surdité, l'orthophoniste, le psychomotricien. On peut proposer de monter un dossier au niveau de la MDPH si nécessaire sur cet élément-là, pour, via l'école, obtenir qu'il y ait une aide humaine pour accompagner l'enfant si l'accueil à l'école a déjà démarré et est compliqué. Parce que manque de concentration, l'enfant n'est pas en relation avec, ses pairs ou avec l'enseignant, il peut être agité et rendant difficile l'accueil seul, isolé de l'enfant, sans aide humaine, qui va soulager l'enseignant et qui va faire l'interface avec l'enfant et soulager surtout l'enfant et lui permettre un accueil par intermittence ou permanent au niveau de l'école. La MDPH, la Maison du Handicap, dans l'un, accepte cela, d'accompagner des enfants sur simplement des éléments de suspicion. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet une réactivité assez urgente. Autre élément, on peut aussi orienter la famille et l'enfant vers une structure qui a été montée récemment, la plateforme, qui a pour but, elle, de... s'il y a des éléments de suspicion sur un courrier de médecin, qui peut être fait un médecin en libéral, un pédiatre, un médecin traitant, la consultation de jeunes enfants également, sur des éléments de suspicion, mais sans diagnostic, pour aider les familles à financer les bilans. Parce que ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est qu'un certain nombre de ces professionnels ne sont pas du tout financés par la Sécu.
Les psychomotriciens, notamment.
Voilà, un psychomotricien n'est pas financé, un neuropsychologue n'est pas financé, un psychologue n'est pas financé. Ce qui fait que même si la maladie est identifiée avec un 100% éventuel, ce qui n'est pas remboursé par la Sécu, et dépend du financement par les parents. Et clairement, tous les parents n'ont pas les moyens techniques et économiques de pouvoir d'emblée financer. Donc la plateforme a été mise en place pour, devant des suspicions du trouble du neurodéveloppement, qui sont argumentées sur déjà un courrier médical, de financer ces bilans et d'accompagner les parents dans le financement. Ils n'ont pas pour but au départ de poser un diagnostic, mais d'avancer dans ces bilans et d'accompagner aussi les familles pour les orienter vers une consultation. La consultation de jeunes enfants avant 4 ans, une orientation vers des structures où ils prennent en charge des enfants, comme le CAMS, avant 6 ans, de 0 à 6 ans, qui a aussi le centre d'action médico-social. Il y a différentes structures en fonction des régions. Mmh. A pour but à la fois d'accueillir des enfants avec ou sans diagnostic, et surtout d'avancer aussi dans l'évaluation des enfants et dans l'accompagnement dans le diagnostic et les prises en charge. Et ça, c'est également avant l'âge de 6 ans. Aussi, j'allais oublier de dire quelque chose quand même qui est important. Derrière toutes ces semaines, ces mois qui passent avant qu'il y ait un diagnostic, on part quand même des besoins de l'enfant. Et quand même, avant qu'il y ait un diagnostic, on peut quand même proposer des choses aux enfants indépendamment des rééducations. Parfois, un des symptômes importants qu'a l'enfant, surtout s'il y a un trouble du spectre de l'autisme, mais pas que, c'est un trouble du sommeil. Le trouble du sommeil, c'est quelque chose de terrible. C'est extrêmement destructeur pour tout le monde. Les parents ne dorment pas bien. Ils se réveillent parce que l'enfant se réveille. Quand l'enfant se réveille, le lendemain, il sera fatigué. Il sera fatigué pour aller à l'école. Il sera agité. Il sera impulsif. Il pourra être agressif pour lui-même ou pour les autres. Et il aura du mal à se concentrer, ce qui est central pour se développer. Depuis quelques années, il y a un médicament qui existe qui s'appelle la mélatonine, qui est fait pour les enfants. Il a été au départ commercialisé pour les enfants TSA, mais il peut être proposé à d'autres enfants, même si le diagnostic n'est pas fait. Il part sur le postulat qu'un certain nombre d'enfants sont déficitaires en mélatonine. C'est un médicament sûr sans danger, les mêmes en vente libre pour les adultes en pharmacie à côté du dentifrice. Je le dis toujours aux parents pour les rassurer. Mais chez l'enfant, c'est une forme vraiment très spécifique qui est adaptée et qui permet déjà très rapidement, dès qu'il y a ce premier symptôme, même si on n'a aucun diagnostic, aucune évaluation, d'essayer de soulager l'enfant. Et lorsque ça soulage l'enfant, bah, effectivement, y a des progrès sont assez... Ça soulage la vie des parents, ça soulage la vie de l'enfant. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il faut consulter déjà pour le bien-être de l'enfant, parce que, indépendamment des rééducations qui prendront du temps, on peut quand même proposer des choses simples, faciles à mettre en place, un bon dodo, une qualité de vie, et permettre aussi des ajustements, d'adapter l'environnement en fonction des besoins de l'enfant, même si on n'a pas de diagnostic, on n'a pas besoin d'un diagnostic pour tout ça.
Eh bien, merci beaucoup pour l'importance que vous venez de nous rappeler de l'importance du sommeil et de bien dormir, notamment pour notre bien-être et celui des enfants. Je voulais terminer cette chronique rapidement en faisant un petit détour vers un film d'animation que je vous conseille, qui est un film assez ancien, qui date de 2007, qui s'appelle « Mon petit frère de la lune », qui est un film d'animation de 5 minutes réalisé par Frédéric Philibert, parent d'un petit garçon autiste. Voilà, ce film raconte le regard d'une petite fille sur son frère autiste, un regard tendre aimant sur un petit frère qui ne fait rien comme les autres. Cette vidéo se termine par quelques mots de l'auteur que je voulais vous lire. Le monde de la Lune, nous ne le connaissons pas bien. Nous y sommes montés, mais nous avons oublié de bien l'explorer. Pour comprendre notre petit homme, il faut s'asseoir, regarder et ne pas se plier à tous ces gestes de retrait, mais plutôt, tout doucement, l'amener à goûter à notre monde. Nous devons nous armer de patience pour parvenir à accrocher à la Lune un fil d'or jusqu'à notre vieille Terre. Jusqu'où ce petit frère de la Lune viendra-t-il nous rencontrer ? Jusqu'où irons-nous pour le rencontrer ? Merci beaucoup, docteur Myriam Kabissi.
Merci à vous.
Merci à Jimmy pour la réalisation. À bientôt.
La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.